Bonsoir, bienvenue dans cette édition de Souligne de la Presse qui vous propose trois thèmes ce soir, à savoir violence sexuelle en République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique condamnent fermement les viols massifs des femmes commis entre le 10 et le 13 juin dernier dans les territoires des Fizi au Sud Kivu. Ensuite, les partisans de l'IDP ont été dispersés lundi dernier par des gaz lacrymogènes et des coups de feu de la police, alors qu'ils manifestaient devant le siège national de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle pour dénoncer des irrégularités constatées dans la révision du fichier électoral. Enfin, lancement mercredi dernier à Kinshasa par le chef de l'État de la deuxième phase des travaux de réhabilitation et modernisation du boulevard Lumumba. Le coût des travaux est estimé à 189 millions de dollars pour une durée de 18 mois. Participe à ce débat trois confrères journalistes. Il s'agit de Fidel Moussangou, il est coordinateur du journal Le Parc, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Fidel Moussangou.
Bonsoir confrères.
Jonas Kota, il est rédacteur en chef principal du journal Forum des As, c'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Jonas Kota.
Bonsoir.
Charles Kabongo, il est directeur de l'agence congolaise de presse Atikuto Bandundu. Bonsoir Charles Kabongo.
Bonsoir.
Les États-Unis condamnent le viol massif en République démocratique du Congo, dispersion des manifestants de l'UDPS ainsi que lancement des travaux de réhabilitation de la deuxième phase du boulevard Lumumba. Comment la presse a traité ces thèmes? On écoute cette revue de presse que nous présente Samuel Pachak.
Bonsoir. Plusieurs sujets ont retenu l'attention des journaux parus cette semaine à Kinshasa. On peut citer entre autres le lancement à Kinshasa de la deuxième phase des travaux de réhabilitation et modernisation du boulevard Lumumba, les violations sexuelles perpétrées à l'est de la RDC et enfin le sit-in des manifestants de l'UDPS devant le siège de la CENI. Concernant le premier sujet, l'avenir revêt que Kinshasa revêt un nouveau visage suite aux travaux de modernisation du boulevard Lumumba lancés par le président Joseph Kabila. Selon ce journal, ces travaux consisteront entre autres au réaménagement de l'échangeur des limités qui va permettre une fluidité de plus de 120 000 véhicules par jour. Parlant des violences sexuelles perpétrées à l'est de la RDC, la récurrence plus qui annonce 387 cas de viol dans 13 villages entre le 30 juillet et le 2 août 2010 à Walikale, signale des enquêtes initiées pour cette fin par la MONUSCO par le biais du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. La tempête tropicale de son côté, parlant des viols massifs au Congo-Kinshasa, affirme qu'une fois de plus, les Nations Unies viennent de dresser un rapport accablant contre la RDC. Terminons cette revue de la presse avec le sit-in des manifestants de l'UDPS devant le siège de la CENI. À ce sujet, l'avenir rapporte que l'UDPS voulait par ce sit-in dénoncer les irrégularités dans les bureaux d'enrôlement tant à Kinshasa que dans les provinces congolaises. Le FAR indique que les incidents du lundi ont coûté la vie à un compatriote dont le nom est Serge Lukusa Dioka. Le FAR affirme qu'il n'y a même pas de débat à engager autour de la traçabilité de ce décès et trois lié aux bavures policières du lundi 4 juillet dernier. Dans son éditorial, la prospérité ne prend position pour aucun cas et affirme que la polémique sur le nombre de morts enregistrés le jour du sit-in de l'UDPS ne sert pas à grand-chose. Sinon, qu'il y ait une ou deux personnes qui ont trouvé la mort, il s'agit toujours d'un incident déplorable. Ce qui importe à présent, c'est la leçon que chacun doit tirer de ces dernières échauffourées qui pourraient être considéré comme prélude à ce qui pourrait arriver si l'on ne prend garde.
Merci Samuel Pachak pour cette revue de presse. Un petit commentaire, Fidel Moussangou, vous êtes coordonnateur du journal Le Phare, c'est un quotidien qui parle ici à Kinshasa. Comment vous associez les travaux de la presse? En fait, la dernière actualité, c'est la publication depuis hier la nuit de l'ordonnance portant promulgation de la loi électorale.
Le travail était bien fait sur le plan professionnel. Sauf qu'on n'a pas rappelé un élément assez important, c'est la signature et la publication sont arrivées un petit peu trop tard. On aurait pu faire ça plus tôt. Cette loi électorale aurait pu être signée depuis 2007 ans, au lendemain même de la prise du pouvoir par Joseph Kabila. On devait avoir cette loi pour pouvoir nous préparer tout le processus électoral. Alors, la loi arrive après qu'on ait installé la CENI, après qu'on ait fait un calendrier. Le calendrier, c'est pas le quoi. C'était la loi qui est l'élément moteur. C'est ça. La loi arrive en retard, c'est qu'il est signé en retard, c'est comme sous l'ange de pain.
Gérard Potard, vous êtes rédacteur en chef au principal du journal Forum des As, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. La presse a également évoqué la signature des deux accords de coopération économique entre la RDC et la Corée du Sud hier à Kinshasa.
Oui, ces deux accords viennent en fait asseoir l'autre dimension des relations entre la RDC et la Corée du Sud, parce que jusque-là, les relations se situaient essentiellement au niveau de la diplomatie. Il n'y a pas beaucoup d'engagement sur le plan de la coopération au développement. Évidemment, il y a quelques interventions de la Corée du Sud dans des projets agricoles, notamment dans le Bandundu et dans la périphérie de Kinshasa. Mais cette fois-là, la Corée du Sud, après des années d'insécurité qui avait justifié cette sorte d'attentisme de sa part, a décidé de s'engager au Congo. Et je pense que, avec la grande volonté qu'elle a souvent exprimée d'abord lors de la visite l'année passée du chef de l'État à Séoul, et aussi du Premier ministre, le chef de l'État c'était je crois mars-avril, et le Premier ministre Mouzito c'était en novembre 2010, à ces deux occasions, les Coréens avaient manifesté très sérieusement leur volonté de venir investir au Congo. Et je pense que cette nouvelle dimension de la coopération pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans ces relations entre Kinshasa et Séoul.
Charles Kabongo, vous êtes directeur de l'Agence congolaise de presse à Kikwit et au Bandundu. Quelle est l'information qui est à la une à Kikwit?
Ici, c'est moi, Kikwit, nous assistons aux Parisiens, aux citoyens qui sont tout beaux, qui viennent de Kinshasa et d'ailleurs, pour se faire soit couper et enregistrer au niveau de l'enrôlement, soit pour revenir et passer les partis politiques, tout ça en prévision de l'élection prochaine.
Merci. Notre premier thème de ce soir, violences sexuelles en République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique condamnent fermement les viols massifs des femmes commis entre le 10 et le 13 juin dernier dans les territoires de Fiji au sud de Kivu. C'est ce qu'a indiqué Mpegi, le porte-parole du département d'État américain, en réaction aux viols systématiques des femmes commis entre le 10 et le 13 juin dernier dans la province du sud de Kivu. Washington presse Kinshasa de mener une enquête complète et de mettre hors d'état de nuire la responsable de ces actes. C'est une déclaration contenue dans un communiqué parvenu à l'agence France Presse. D'autres détails avec Onésime Mukandila.
Le gouvernement américain, par le biais de la porte-parole de sa diplomatie, se dit profondément perturbé par les viols massifs perpétrés au sud Kivu. Victoria Nuland affirme que les États-Unis travaillent avec les autorités congolaises, les ONG locales et internationales, ainsi que l'ONU, pour réunir les informations essentielles en vue de traduire rapidement en justice les auteurs de ces viols. Washington presse Kinshasa de mener une enquête complète et de mettre hors d'état de nuire les responsables de ces actes. Par ailleurs, dans un rapport publié hier, l'ONU estime que les exactions commises par la rébellion en 4 jours, en début août 2010 en Nord Kivu, pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Le rapport des Nations Unies précise aussi l'engagement de l'ONU à aider le gouvernement congolais et les institutions judiciaires à augmenter leur capacité d'intervention dans la lutte contre les violences sexuelles.
Réagissant au rapport des Nations Unies sur le viol massif commis entre juillet et août 2010 à Radical et Nord Kivu, le ministre de la Communication et des Médias a estimé que certaines ONG internationales ont tendance à instrumentaliser la population qui va jusqu'à inventer des crimes sexuels pour ainsi recevoir quelque chose de leur part. Nous allons lire les unes de certains journaux. Nous avons le quotidien La Tempête des Tropiques qui dit « Viol massif des femmes au Congo Kinshasa, encore un rapport accablant de l'ONU contre la RDC. Nous avons le quotidien La Référence Plus qui dit « Enquête sur les violences sexuelles à Walikale, 387 viols dans 13 villages entre le 30 juillet et le 2 août 2010. » Nous avons le quotidien L'Avenir qui dit « Nord Kivu, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, note des cas de graves violations commis par une coalition. » Fidel Moussangou, les viols en République démocratique du Congo, on en parle, on dénonce. Rien ne change. Comment vous analysez la réaction des États-Unis à ce sujet?
C'est une réaction molle. face à un crime contre l'humanité, les viols des femmes. Regardez ce qui arrive à Destin. Une grande personnalité qui est en train de perdre sa, toute sa personnalité, toute son avenir politique, à cause d'une accusation de viol, tentative de viol.
C'est
une molle parce qu'elle ne touche pas le fond du problème. C'est bien beau de condamner. Quelle est le fond? Pourquoi il y a viol à l'est? Pourquoi il n'y a pas de viol au centre, au sud, au nord, au nord-est? Il n'y a pas de viol au Kassai, il n'y a pas de viol au Katanga, il n'y a pas de viol à l'Équateur, il n'y a qu'au Kivu. Et Kivu, c'est nord Kivu, sud Kivu, de manière de moins en moins. Parce que le fond du problème, c'est cette affaire des interamoines. Un prétexte utilisé par le Rwanda pour justifier toutes les incursions au Congo, tous les viols, tous les pillages. Les viols est une arme de guerre. On l'a reconnu. Alors non, il faut donc faire pression sur Kigali. Kigali cesse avec ce prétexte, Kigali cesse d'appuyer les CNDP, d'envoyer des militaires au CNDP pour ne rien faire. C'est pour donc maintenir une situation de lutte et de guerre. En même temps, maintenant, vous avez quelques voyous congolais, rwandais ou burundais qui passent le temps à violer des femmes. Vous vous rendez compte, le traumatisme que nous avons connu pendant des générations, le nombre d'enfants sans père, le nombre de femmes traumatisées, des jeunes filles traumatisées, des enfants, garçons qui ont vu leur maman violée, tout ça, c'est pas si aperçu. Deuxième pression qu'il faut faire, c'est sur Kinshasa. Et dès qu'il y a ça, avoir une armée réellement forte pour la déployer à travers cette province, et non, c'est ça, sous prétexte des interamines.
Parce qu'il faut rappeler que la réforme de l'armée est en cours.
Les réformes sont pas payées, mais sur le fait n'a rien, moi je viens là, j'étais fils, moi. C'est juste à Fizi.
C'est à Fizi.
Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Il n'y a pas de présence d'État. Les gens se débrouillent eux-mêmes. Ce sont les ONG hollandaises qui aident même à la réinsertion des réfugiés. Il y a plein de réfugiés en Tanzanie.
Et donc, ces violeurs profitent de l'absence de l'État pour commettre ces
délits. Oui, il n'y a pas de police, il n'y a pas de militaire. J'ai vu quelques policiers avec des tenues sales, délavées, presque déchirées. Quand vous allez au nord Kivu, même chose, vous allez au Kivu et à Bukavu. Aux Antilles de Bukavu, on viole aux Antilles de Bukavu. La preuve, il y a un grand hôpital à Panzi. Tous les femmes violées. Et le docteur Mukwege, qui a reçu un prix Nobel, enfin, on ne peut pas le poser un prix Nobel, c'est qui pas. Il passe son sang. J'ai une petite cousine là-bas, qui s'appelle Bissi, moi, Jackie, qui a reçu un prix. Parce qu'elle se bat pour ça. Elle dit la vérité. Le fond du problème, c'est pression sur Kigali, pression sur Kinshasa. Et les pressions, à la limite, de lancer des mandats d'arrêt international. Parce que ça, on ne peut pas accepter ça. Ça va continuer comme ça. C'est comme s'il y a un complot contre ce pays pour qu'on puisse créer un traumatisme. Pourquoi les Russes sont Kizou sur ma porte? Pourquoi pas?
Dans ce cas, Philippe Moussangou pense qu'il faut que Washington exerce une certaine pression à Kigali et à Kinshasa. Déjà, Washington presse Kinshasa de mener une enquête complète et de mettre hors d'état de nuire les responsables de ces actes. Et cette pression-là ne suffit pas.
Des pressions, il en faut, molle ou active, c'est des pressions. Mais moi, je pense que au-delà de l'origine même de l'occurrence de ce qui se passe dans l'est de ce pays, il y a un travail de terrain qui se fait déjà. Ce qui se passe, les poches d'insécurité qui existent à l'est sont aujourd'hui identifiées et circonscrites, et il se pose un problème de transition entre les forces militaires et les forces de police. Après le nettoyage de ce secteur, la situation a été jugée suffisamment maîtrisée pour céder le reste des opérations à la police. Mais c'est fait que lorsque la police a remplacé les forces armées, la police a des difficultés à se déployer sur un terrain qu'elle ne connaît pas, ce qui fait que les autres forces, les milices locales qui connaissent le terrain, se déploient facilement pour commettre ce genre d'actes. Je pense que le gouvernement poursuit les efforts, selon les informations que j'ai. Le gouvernement et la MONUSCO, bien entendu, avec les différentes opérations dont je perds même des noms, c'est toujours des opérations Magneto, Kinyarudia et ainsi de suite. Il y a du travail qui se fait sur le terrain. C'est un problème de transition et j'espère que ça ira de mieux en mieux pour qu'on cesse de déployer ce genre de cas. Évidemment, il faut continuer à mener un travail de diplomatie pour comprendre le Rwanda à récupérer ses compatriotes qui vivent au Congo d'une manière ou d'une autre.
Et donc, à l'approche militaire, il faut utiliser aussi l'approche politique.
L'approche politique et diplomatique pour faire en sorte que les Rwandais qui vivent à l'est du Congo, qui désirent rentrer dans leur pays, puissent rentrer. Il y a eu une opération qui avait commencé il y a une année et demie. Il y a des Rwandais qui sont arrivés jusqu'aux frontières de leur pays, qui ont été renvoyés par les autorités rwandaises au motif qu'ils ne seraient pas rwandais. Donc, il y a un travail qu'il faut continuer à faire dans ce sens-là, sur le plan diplomatique, il y a un travail sur le terrain.
Et Salka Bongo, à quoi vous attribuez la récurrence de ces phénomènes de viol massif des femmes au Congo? Est-ce qu'on peut attribuer ça à la seule absence de l'État, ou il y a d'autres facteurs qui peuvent être intégrés dans cette analyse?
D'abord, nous commençons par vous expliquer que nous compatissons un peu avec nos frères qui sont victimes de ces viols massifs. L'opinion était scandalisée. L'opinion, les bâtards, dans cette situation, alors tant qu'il y a l'encadrement de l'État, si le professeur était protégé, s'il avait la protection, il ne pouvait pas être victime de cette histoire-là. Nous sommes vraiment tristes. Les caroutous, on est en train de nous questionner ce qu'il a fait. On ne connaît pas l'état psychologique de ces gens-là qui les ont violés. On ne connaît pas. On est en train de vérifier ce qu'il a fait.
Il y a des experts qui évoquent aussi l'impunité. Hein. Ils disent que le fait que les violences qui ont été arrêtées ne sont pas punies, et cela encourage les potentiels violeurs.
Écoutez, la première chose à faire, c'est de faire d'abord une armée bien équipée, bien entraînée. Moi, j'ai fait Bukavu, j'ai fait Goma, Bukavu, la plaine de Ruzizi, jusqu'à Fizi. Je n'ai pas trouvé un campement militaire. J'ai appris sur une thèse de l'Ouberie. Il y a un centre de formation qui garde l'époque coloniale. Il n'y a que ça. Vous ne trouvez pas de militaire. Quand vous en voyez un, c'est un militaire familique mal habillé, même pas armé, par des crashs. Ils comptent pour combattre les interamois qui sont dans la plaine, on disait, jusqu'à Fizi. Il n'y a rien. L'absence totale de l'État. Même ce territoire, il est invisible. Je dis là, j'ai fait toute la route. Par où tu veux? Alors, et c'est du problème que je voudrais que nous. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut une armée, une présence militaire. Moi, j'ai vécu la guerre, tu vois, quand on a mis ça à la guerre de l'Ouroscan. Il y avait une présence militaire. Quand on a fini le pays, la paix est venue. La paix est venue. Mais ici, on nous parle de 100 000, 200 000 militaires. Où sont-ils, monsieur? Où sont-ils, ces militaires-là? Il faut les déployer au Kivu. Il faut les payer. Il faut les armer. Rien que la présence est dissuasive, les ultramos vont rentrer chez eux en cours. Deuxième élément, la deuxième pression, c'est sur Kinshasa. Le comportement de Kinshasa est étonnant. Comment voulez-vous supporter le CNDP, qui est devenu une armée dans une armée? Les militaires CNDP n'obéissent pas à Kinshasa. La preuve, au général, pourtant recherché par la Cour pénale internationale, Kinshasa prétend que c'est une raison de la paix, comme s'il peut y avoir des paix sans justice. Cet homme est reçu par le national, il était impliqué récemment dans l'histoire de trafic de matières précieuses, on l'a blanchi. Donc, comment maintenir ces généraux et les CNDP qui sont, il n'y a que des militaires rwandais, je les ai vus, je les ai entendus parler qu'il n'y a rien d'ailleurs rien, pas un mot de Swahili, pas de Lingala, et qui n'obéissent qu'à Paganda? Comment voulez-vous avoir un état comme ça? Comment? Et ces militaires font quoi? Ils font des barrières pour percevoir des taxes sur les véhicules de commerçants. Voilà ce qu'ils font à l'Est. Au lieu de traquer les interamoites, donc ils continuent le motif de leur révolte. Vous voyez, la révolte du CNDP avec l'autre qui est au Rwanda là-bas, Laurent Kounda, c'était la présence des interamoites et le refus du retour des réfugiés congolais qui sont au Rwanda. Le retour des réfugiés ne concerne pas une armée, c'est l'ISR, mais la présence des interamoites, puisqu'ils sont armés, ils n'ont qu'à les traquer, ils ne sont pas physiques. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il y a une autre mission qui leur revenait par Kigali. Voilà la pression. Pression sur Kigali, passer sur le Congo, pour on accélère et on commence à arrêter tous les complices passifs et passifs qui sont à Kinshasa dans les forces armées congolaises.
Merci, Jonas Kota. Un autre facteur, c'est la victime en fait, de ces violences sexuelles. Et cette femme qui est victime, qui ne parle pas, qui apparemment est abandonnée à son triste sort. Qu'est-ce qui est fait pour une prise en charge effective de cette femme?
Je crois que personne ne peut se mettre à la place de ces femmes qui sont violées et qui, pour certaines, arrivent même à être bannies de leur propre société, comme si elles avaient voulu subir ce qu'elles ont subi avec la stigmatisation dont elles souffrent au sein de leur communauté. Ce qui est fait, je ne sais pas si on peut mesurer ce qui est fait par rapport au mal qui a été commis pour savoir si ce qui a été fait peut être à la hauteur de la résorption de ce mal-là. Mais ce que moi je constate, c'est que au moins il y a une chaîne de solidarité qui se crée autour de ces drames-là, aussi bien de la communauté locale dans les zones d'occurrence de ces drames, que au niveau national et même de la communauté internationale avec toutes ces ONG, les réactions du gouvernement américains, tous ces rapports des Nations Unies concourent justement à stigmatiser ces événements-là pour faire sentir à ces femmes qu'elles ne sont pas seules, que les gens sont derrière elles pour les soutenir, pour les protéger, afin que ce genre d'événements cessent un jour ou un autre. Donc,
et les enfants qui sont issus de ces relations, qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils ne soient pas marginalisés ou rejetés par la société?
Moi, je suis particulièrement révolté par des gens qui rejettent ces enfants-là, comme si ces enfants, comme je l'ai dit avec des femmes, avaient demandé de naître dans ces conditions-là. Ce sont des victimes de choses sordides qu'il ne faut pas accepter au sein de la société. Lorsqu'on commence à rejeter ce genre d'enfants-là, c'est se donner une sorte de caution aux auteurs de leur naissance. Une sorte de caution pour dire que voilà, ça peut constituer aussi une sorte d'arme. Ça veut dire que quand ils ont commis ces actes-là, l'objectif c'est de toucher le psychique, le moral de la communauté pour qu'ils continuent à perpétrer ces actes. On l'a déjà dit, le viol est devenu une arme de guerre, un élément de pression. Du moment que la société commence à stigmatiser les personnes qui sont victimes de ces viols-là, cette société-là tombe dans le piège des violeurs. Donc il faut que la société comprenne que ce qui se passe là, c'est une sorte de guerre qu'on est en train de mener contre elle et que les victimes ne sont pas les adversaires. Les adversaires, ce sont les auteurs de ces viols-là.
Merci, Salsa Bongo. Il n'y a pas que les FDR qui sont réunis en cause ici. Il y a aussi quelques éléments FRDC de la police. Il y a même des experts qui, parmi les propositions qu'ils ont faites, ils demandent à ce qu'on puisse éradier purement et simplement de l'armée, de la police nationale, tous les éléments auteurs de ces viols.
Oui, si réellement ce sont les éléments de FRDC, c'est vraiment regrettable. Donc, c'est le fort pour sauvegarder notre honneur. Mais si ce sont des éléments de FDR, c'est vraiment triste. Nous avons donné notre hospitalité et ils sont venus se refuser chez nous et qu'on passe à la campagne qui commence à nous maltraiter. Vraiment, nous regrettons vraiment cette situation-là. C'est un crime contre l'humanité comme le premier parti de l'Église.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, les partisans de l'IDPS ont été dispersés lundi dernier par les gaz lacrymogènes et des coups de feu de la police alors qu'ils manifestaient devant le siège national de la Commission électorale nationale indépendante qui s'est mis en sigle pour dénoncer les irrégularités constatées dans la révision du fichier électoral. Le parti d'opposition des thèmes sur ce crédit est allé déposer un mémorandum dénonçant les irrégularités constatées dans la révision du fichier électoral, notamment l'enrôlement des mineurs. Mais la manifestation a été dispersé par des gaz lacrymogènes et des coups d'essai de la police. Bilan, un mort, plusieurs arrestations et le véhicule d'un particulier incendié. Témoin de l'événement, Michel Kissinda Ngoy.
C'est à partir de 9h que des manifestants commencent à rejoindre le boulevard du 30 juin en face du siège de la CENI. Drapeau de l'UDPS et banderole à la main, ces manifestants agrémentent le sit-in par des chants, des danses et des cris de joie. Jusqu'à 10h30, le nombre de manifestants ne fait qu'augmenter pour atteindre plus d'une centaine. Quelques minutes avant que le secrétaire général de l'UDPS dépose le mémo, la tension commence à monter dans la foule. Difficile de savoir pourquoi. Mais les manifestants font des vagues sur le boulevard en entonnant des chants partisans. Après le dépôt du mémo, certains manifestants lancent des cocktails Molotov en direction du siège de la CENI. Ce projectile touche la voiture d'un passant. La voiture est complètement calcinée. Un véhicule de la police touché aussi par les flammes a été sauvé de vitesse par la police. Des tirs en l'air et des jets de bombes lacrymogènes de la police vont s'en suivre pour disperser les manifestants dont une dizaine est interpellée par les forces de l'ordre.
Le gouvernement congolais condamne les incidents survenus le 4 juillet dernier à l'issue du sit-in des militants de l'UDPS au bureau de la CENI. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, qui l'a déclaré ce jeudi dans une conférence de presse ici à Kinshasa, indique que sur 10 militants de ces partis arrêtés ce jour-là, 6 ont été libérés pour insuffisance des charges et 4 autres restés en détention. Ils devront être déférés devant les tribunaux pour jugement. Jonas Kota, et comment vous avez réagi lorsque vous avez appris que la manifestation a dégénéré au siège de la CENI?
On ne peut que déplorer ce genre de fin de manifestation, mais je ne voulais pas chercher à me mettre à une chasse sorcière ou bien chercher à établir des responsabilités. Le constat, c'est qu'il y a une sorte de déni de démocratie dans le comportement de l'homme politique congolais. Je peux même commencer par vous dire que personne n'a constaté que l'événement, la manifestation organisée par l'UDPS était totalement inadéquat par rapport à l'objet même de cette rencontre. C'était pour déposer un mémorandum dénonçant des irrégularités constatées dans les opérations
de
électorale. Oui, manifestement, je travaille dans la société civile, je connais les méthodes de pression. Un sitting est destiné à exercer de pression lorsque deux camps sont en négociation sur un sujet donné. C'est une méthode utilisée souvent par les syndicalistes. Mais faut-il organiser un sitting parce qu'on va déposer un mémo? Le sitting, ce genre de manifestation, le dépôt de mémo, est généralement accompagné d'une marche. Alors, c'est comme ça que, quand vous regardez l'occurrence même des événements, est dû justement au mauvais calibrage. Même les autorités qui devaient encadrer cette manifestation-là n'ont pas compris qu'il pouvait y avoir des problèmes. Et les problèmes ont commencé juste quand le travail a été achevé, c'est-à-dire quand le mémorandum était déposé et que la délégation de l'UDPS est sortie des installations de la CNI. C'est là que les choses ont commencé. Alors, on peut dire que la manifestation a été réprimée ou bien dispersée de manière disproportionnée. On peut dire que les manifestations de l'UDPS n'avaient pas à se mettre à faire de la provocation en lançant des cocktails Molotov sur les bâtiments, les véhicules, les consorts. Mais je vous reviens pour dire que il ne faudrait pas qu'on se laisse à l'aise dans ce genre de déni de démocratie. Il faudrait que les démarches que l'on peut mener pour obtenir gain de cause dans un problème donné soient conformes aux besoins de la démocratie. On a encore 4 ou 5 mois avant les élections. C'est peu, mais c'est énorme à la fois. Alors, si on continue dans cette logique-là, je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Et je ne sais pas si c'est ça que l'on appelle démocratie.
Mais lorsque vous parlez des déni de démocratie dans les comportements de l'homme politique congolais, vous faites allusion à qui?
Justement, quand je parle à tout le monde qui se comporte de cette manière-là, je ne parle pas des opposants ni des gens de la majorité, c'est à tout le monde qui se permet de ce genre d'exploitation, d'instrumentalisation des libertés pour franchir les lignes rouges. Ouais.
Merci. Fidèle Sangou, déni de démocratie dans les comportements de l'homme politique congolais.
Il n'y a pas déni de démocratie. Il y a des actes de provocation délibérément posés et réfléchis à partir de la jalousie qui engendre la haine et la haine conduit à la violence.
C'est la
répression ici violente avec mort d'homme, c'est parce que on est jaloux du succès que l'UDPS a récolté depuis le 24 avril. Alors on se dit, si on laisse ces gens continuer encore à manifester pacifiquement, ils vont embraser tout le pays. C'est la jalousie qui engendre la haine. Alors il y a des officiers dans le service de sécurité qui montrent ces gens de provocateurs. On le dit encore tellement longtemps, mais rappelez-vous à son être. On a massacré des étudiants ici, soi-disant qu'ils avaient des cocktails Molotov. Mon journal a rappelé l'affaire d'un jour Mika, qui a même comparu. J'ai vu dans le journal local une bouteille de musique se disant ça, cocktail Molotov. Non, les 24 avril, il était ça. Rempli le stade, tout ce qu'on a tout. On n'a pas même tué Moussa. Et on les coupe, a fait un témoignage éloquent sur. Et aujourd'hui, ils vont déposer un mémo, ils amènent des cocktails Molotov. Ça montre qu'il y a des groupes ici qu'on a préparés à dessein pour salir la réputation d'un parti politique. Et malheureusement, dit dedans, il y a mort d'homme. Et c'est tout pour moi, quoi. Contre le montant, non. Déjà, c'est moyen. Quand, ici, la loi sur les manifestations est claire, on avise l'autorité. Et l'UDPS a avisé depuis jeudi que lundi, il y a un dépôt et sitting. Déposer un mémo, c'est une manifestation politique normale, régulière. Et l'autorité était prévenue, il fallait mettre la police aux alentours. Pas avec des cocktails Molotov. Et puis, après le dépôt, les incidents, ça montre qu'il n'y a pas eu un acte délibéré, il y a un complot, il y a des officines dans les services de sécurité. Et je vous donner une série d'exemples pour montrer que, et malgré, ça m'a eu des problèmes au Canada. Ici, on dit que c'est l'UDPS. On a compris. Et après, on a quelqu'un du parti qui commence à s'en vanter. L'UDPS, elle fait partie de non-violence. C'est depuis mon retour. C'est elle qui porte le commentaire. Elle n'a jamais tué quelqu'un. N'oubliez pas, l'histoire nous rappelle, depuis mon retour de l'UDPS, alors je ne parle pas au nom de l'UDPS, mais je constate qu'il y a des officines. Et regardez la réaction du gouvernement. Il nie le mort. Et mon journal sort la photo du mort, et le corps du mort, et son adresse. Le gouvernement se tait. Il s'agit de quoi? Faux témoignage. Mensonge public, il va coûter cher
à la Guinée qui a accusé le Dominique Okam.
Oui, le porte-parole du gouvernement dit que la personne qui est décédée, elle est décédée d'une mort naturelle.
Non, enfin, qu'on soit sérieux, il a été blessé, on l'a transporté jusqu'à la clinique de l'armée du salut. C'est là où on a dit l'affaire est grave, on amène maman et moi, mais comment il faut pas aller jusqu'à ce point. Ça, c'est trop fort de la part du porte-parole, c'est trop fort, c'est malheureux ça.
C'est à Bongo, y avait-il nécessité d'utiliser la force à partir du moment où les personnes qui manifestaient le faisaient de façon pacifique?
Oui, je ne sais pas sur place pour voir l'ampleur de la manifestation. Mais de toutes les façons, ce que nous pouvons dire, nous appelons les uns à la tolérance et les autres à la transparence. C'est-à-dire que les politiciens puissent avoir la tolérance, nous sommes en démocratie, et que la CENI aussi puisse être transparente dans toutes les opérations.
Jeunesse Kota, le pasteur Mulumba a initié des contacts avec les partis politiques, c'est important qu'il se pose des problèmes. Cela veut dire qu'il y a quand même un cadre de concertation. Et pourquoi, à votre avis, l'UDPS n'a pas procédé ainsi, n'a pas utilisé ces cadres-là, n'a pas envoyé une délégation à la CENI pour aller poser les problèmes qu'il a constatés auprès des bureaux de la CENI?
C'est ce genre de choses qui m'amène à parler du déni de démocratie, justement. On peut même revenir au contenu même du mémorandum que l'UDPS a déposé à la CENI pour dénoncer des irrégularités. Mais on constate que le contenu de ce mémo ne renseigne aucun cas de violation.
Alors, vous l'avez lu?
Oui, j'ai eu des copies. J'ai accédé à des copies. Ça ne renseigne aucun cas.
L'enrôlement des mineurs.
Même les enrôlements des mineurs, il y a déjà eu un rapport le dimanche passé. La CENI a sorti le rapport d'enquête sur. C'était une enquête conjointe CENI-MONUSCO sur ces cas à Banon et Calémie. Et les personnes qui ont allégué ces violations-là n'ont apporté aucune preuve pour aider les enquêteurs à démontrer cela. On a brandi des photos, des cartes. Est-ce qu'on peut évaluer l'âge d'une personne à partir d'une photo? Évidemment, il y a des cas d'extrême, mais il y a aussi, avec les problèmes de santé qu'il y a à gauche, à droite, quelqu'un peut afficher l'âge de quelqu'un de 15 ans alors qu'il en a 30. On le sait dans ce pays. Et on constate que l'IDTS n'a pas apporté des renseignements précis parce que la Commission électorale nationale indépendante est une structure éminemment technique. Lorsque, c'est comme un véhicule, lorsqu'un véhicule qui saute, c'est qu'il y a une panne quelque part, vous devez l'arrêter et sonder. Vous ne pouvez pas commencer à épiloguer sur le trottoir pour dire qu'il y a un problème avec le véhicule. Alors, le cadre de concertation, la CENI aussi a déploré que, d'une manière générale, les partis politiques n'envoient pas leurs témoins dans les bureaux d'enrôlement. À quel moment, par quel canal peut-on avoir pu renseigner des cas d'irrégularité lorsqu'on n'est pas sur les lieux de commission de ces
élections? Qui dit que l'IDPS n'a pas de témoins dans les différents bureaux d'enrôlement?
Mais la CENI le dit régulièrement, le patron du monde le dit d'une manière générale que les partis politiques sont même des observateurs électoraux de la société civile, ils sont généralement absents d'aide. Alors, c'est cet ensemble d'éléments qui m'amène à parler d'une sorte de déni de démocratie. Les gens préfèrent des deux démarches à mener, des gens préfèrent des démarches de cœur de tension plutôt que des démarches de reconstruction.
Merci. Madame Sango, pourquoi, à votre avis, l'UDPS n'a pas utilisé ces cas de concertation? Pourquoi il n'a pas envoyé une délégation pour aller poser les problèmes auprès du bureau de la CENI au lieu d'envoyer toute une masse? Déjà,
la première personne à dénoncer l'enrôlement des enfants mineurs s'appelle Vital Kamerhe. Au cours d'une conférence,
au cours d'une conférence
qu'il a accordé à un journal burkinabé. Le bon journal a récupéré ça, sous ma plume, et nous avons une catégorie des photos des enfants avec des cartes. Nous avons publié juste une photo.
Mais c'est des faits avérés.
Deuxième élément. Donc c'est Vital Kamerhe. Le président fédéral et l'UDPS Nord Katanga a dit que 30% d'enrôlés au Nord Katanga sont enfants mineurs. Il a dit officiellement. Preuve à l'appui. La preuve de l'en général qui vous montre qu'il y a ce genre de choses, pourquoi c'est une maladie pour Katanga? C'est parce que tout d'un coup le Katanga devient la province la plus peuplée.
Et pourquoi l'enquête menée par la CENI n'a rien donné?
La CENI n'a pas demandé aux partis politiques d'aller faire l'enquête au Nord Katanga. J'ai besoin d'un exemple pour dire qu'il y a quelque chose, il y a une manipulation à Tricherie. Les Katanga que je connais bien, du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, et de toutes les villes, je les connais. Aujourd'hui, les Katanga deviennent plus peuplés que Tchara. Le Katanga, 4 500 000 électeurs, ils viennent d'où? C'est là la pause qui a créé. Vous pouvez aller à Lubumbashi. Lubumbashi peut avoir 3 millions d'habitants. Et la deuxième ville, c'est Kalemi. Kalemi n'a pas 100 000 habitants. Kolozi n'a pas 50 000 habitants.
Tout ça, c'est des estimations.
Moi, je vais au Katanga presque tous les ans. J'ai fait les villes. Janvier, l'année passée, j'étais à Kolozi, j'étais à Likasi, j'étais à Kalemi. Alors, d'où viennent les 4 500 000 électeurs, plus que la province a pu plus de 15 000. C'est ça qui a moins 10 à 12 millions d'habitants. Et on le voit. Et avec qui c'est ça, la foule qui arrive ici. Donc, c'est le nombre de communes. Aller à Lubumbashi, on peut circuler Lubumbashi en voiture, en une journée, on termine. Alors, vous savez, c'est ça la preuve qu'on. Ça n'arrive qu'au Katanga. Et c'est lui qui dit, ça fait Isaac Kamele. Isaac Kamele dit pourquoi. Il a fait quelque chose. C'était lui qui était le grand animateur de la campagne de Kabila en 2005-2006. Donc il ne parle pas en l'air. Deuxième élément, le vice-président de la CENI, le professeur Joly, l'a reconnu. Et mon journal a récupéré ça sous ma plume. Et je n'ai jamais démenti, ni de Moulou, ni de Joly.
Mais le journal de la CENI.
La CENI a fait son enquête quand? En deux jours, trois jours?
Bon, écoute, à votre avis, parce que le problème posé par l'IDFS, c'est des problèmes réels. Et est-ce que cette manifestation pourrait avoir un impact sur le processus d'enrôlement?
Mes enfants sont allés se faire enrôler. Pas pour le moment de 2000 francs. Mais c'est qui tombe. Je suis allé moi-même là-bas. Alors, quand ils m'ont vu, ils ont paniqué. J'ai dit, bon, je vais enrôler mes enfants. Ils ont eu peur parce qu'ils m'ont reconnu. Mais mes filles de 20 ans, 22 ans, j'ai envoyé mes nièces encore. Même sur 2000 francs. Ici, à Kinshasa. Deux, la lenteur de Kiki. Et puis, l'absence de certains coins électoraux dans le fichier. On vous dit, il va du Kassa oriental. J'ai une amie qui est de Moukoukalonji. Ça sent que non, vous on vous met là sur le bord, comment que j'ai le village là, quelque part au castel. On dit non, ça sent que je me dis non, on vous met là-bas. Donc on méconnaît son village, on veut le mettre dans un village de son mari. On va dire, donc nous avons publié ça, la CENI n'a pas osé
nous. Donc la manifestation de l'île de fait, c'était.
Justifiée, elle dénonce des faits vérifiables et vérifiés, et c'est d'où vient la colère et la haine qui engendre la violence. Parce qu'on touche on met les doigts sur la plaie, et ça fait mal.
Merci. Nous passons à notre dernier thème de ce soir. Lancement mercredi dernier à Kinshasa par les chefs de l'État de la deuxième phase des travaux de réhabilitation et modernisation du boulevard Lumumba. Les coûts des travaux est estimé à 189 millions de dollars pour une durée de 18 mois. Le chef de l'État a lancé officiellement les travaux de modernisation et de réhabilitation du boulevard Lumumba à Kinshasa. Il s'agit d'une part de la deuxième phase des travaux de modernisation du tronçon routier dans la partie comprise entre la place de l'échangeur à l'Imété et l'aéroport d'Ndjibi. Et d'autre part, la modernisation du site échangeur afin de finaliser le projet qui a été suspendu depuis les années 70. Quelle est la situation des infrastructures routières à l'intérieur du pays? Tentative de réponse à travers quelques provinces avec Onésime Mukandila.
Au Katanga, les routes de centre urbain sont en réhabilitation. C'est le cas à Lubumbashi, Likasi et Kolozi. Cependant, à l'intérieur de la province, beaucoup reste encore à faire. Si certaines routes en terre battue ont connu des travaux de remblayage, celles des dessertes agricoles sont en mauvais état. Au sud Kivu, le réseau routier est en piteux état. Les quelques tronçons réhabilités par les Chinois sont retournés à leur état initial. C'est le cas notamment de la nationale numéro 2, partant de Bukavu jusqu'à Kasongo, via Shabunda. Les eaux de pluie ont vite emporter les bordures et boucher les caniveaux. Il en est de même pour la voirie urbaine quasiment affreuse. Au sud de la même province, la seule route asphaltée depuis les années 80, reliant la cité de Kamagnola à celle d'Ouvira, est envahie par les érosions à plusieurs endroits. Le reste du réseau routier souffre d'une criante inattention. À Kinshasa, les routes réhabilitées sont les boulevards du 30 juin et Triomphal, les avenues de l'école Angaliema, de la Libération ex du 24 novembre et celle de la Démocratie ex des Huileries, celle en construction, le boulevard Lumumba, les avenues Lambo Makiadi, ex Bokassa, Kassai, Sefou Alemba et la route Matadi, ainsi que la deuxième entrée à Njili. Si les avenues Flambeau et Funa ont été à moitié construites, celles de Tourisme et Mamayemo sont à nouveau délabrées après leur construction.
Charles Kabongo, vous êtes directeur de l'Agence congolaise des fêtes d'Afrique au Bandundu. Quel est l'état des routes d'Afrique dans la province de Bandundu?
Bon, ici, chez nous, nous avons salué vraiment la réhabilitation de la route numéro 1, maintenant numéro 1, qui le riche est à circuit. Ça a permis quand même les échanges commerciaux entre les deux villes. Et à part ça, il y a quand même les travaux que nous sommes en train de voir, par-ci par-là. il y a l'office de route qui est en train de réaliser certaines routes. Il est en train de procéder à l'évacuation du sable sur la nationale en Pays-Bas, qui a suivi. Il est en train de construire l'église Kerr dans la commune de Zinda et dans un village à côté de la ville de Kibi. Il reste beaucoup quand même à faire. La population souhaite en fait qu'on puisse réhabiliter la route qui puisse Kaemba qui arrive jusqu'en Angola parce que c'est une route qui va ouvrir vers l'extérieur.
Merci, Jonas Cotard. Vous êtes rédacteur en chef principal du journal Forum de l'As, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. La RDC a 145 000 km de route et la ville de Kinshasa a 548 km. Et sur ces 548 km, il est prévu la réhabilitation de 250 km à peu près. La moitié, c'est vrai que tout n'est pas encore fait, mais l'intention est quand même bonne. La moitié de ces routes-là qui est prévue pour être réhabilitée. C'est quand même une bonne intention.
Oui, c'est tout à fait remarquable pour une économie comme celle de la RDC qui n'offre pas de grosses opportunités de pouvoir prendre en charge des travaux allant au-delà de ces 250 km, ou bien de ces 145 000 km. Vous parlez de 145 000 km, ce sont des routes existantes. Parce qu'il y a des routes
à travers le pays.
À travers le pays. C'est des routes déjà existantes qui sont en piteux état, qui sont devenues impraticables, qu'il faut réhabiliter. Mais il y a aussi des axes à construire. Pour vous donner le cas de la ville de Kinshasa, qui est construite pratiquement le long du fleuve. En fait, les plus grandes routes de la ville de Kinshasa sont parallèles au fleuve. Il faut maintenant les connecter les unes aux autres. Vous prenez le boulevard Lumumba, le grand boulevard du 30 juin, la route de Bypass et Constance, ce sont des routes qui sont parallèles au fleuve. Il faut maintenant les interconnecter pour rendre la situation beaucoup plus fluide. Parce que ce n'est pas normal, par exemple, pour quelqu'un qui habite Lupin, pour arriver à la Gombe, il n'est pas normal nécessairement qu'elle prenne la route de Matadi pour venir jeter sur le boulevard du 30 juin avec tous les embouteillages qu'il y a sur le chemin. Il y a plusieurs axes, diversifier les routes et Constance. Donc, c'est quand même appréciable les 250 km qu'on va faire et les autres routes qu'on fait à l'intérieur du pays, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir les organiser et établir une échelle de priorité pour voir lesquelles il faut réhabiliter au profit de quoi par rapport à leurs utilités.
Donc, vous corroborez, vous confirmez les propos d'un expert qui a dit que l'intention est bonne, mais elle pèche par une mauvaise planification parce que cette planification telle qu'elle est conçue ne facilite pas le désenclavement du pays.
Oui, oui. Il y a certains endroits où il y a des choses à redire. Hein. Il y a des gens au-delà, surtout la classe politique, qui récriminent, par exemple, en disant ben, « Est-ce que avec l'état de ce pays, le Congo pouvait se taper un Champs-Élysées en pleine ville de Kinshasa ?» On parle du boulevard du 30 juin, alors qu'il y a des routes de sites agricoles à réhabiliter. Bon, je dirais, mais est-ce que c'est parce que quelqu'un ne mange pas qu'il n'est pas obligé de soigner son accoutrement, par exemple?
Il me semble que vous êtes coordonnateur du journal Le Par, c'est un quotidien qui parle aussi à Kinshasa. Certains analystes pensent que la priorité doit être accordée aux routes de desserte agricole parce que sans ces routes-là, il y a un impact réel sur l'économie du pays.
Stanley disait que sans les chemins de fer, le Congo ne peut pas être. Il s'est battu, il a fait un chemin de fer dans les collines. Et on en profite jusqu'aujourd'hui. Kinshasa en profite et le bat Congo, à côté de la route. Mais les Belges, ils ont fait un système routier qui a fait que Lumumba, Bizenga et ses amis ont quitté Lopoli en voiture jusqu'à Stanleyville. Si Lumumba n'avait pas été, je parle de la France Stanleyville, si Lumumba n'avait pas été distrait par des meetings à Moka, il aurait réfléchi. Ils allaient en voiture, s'il vous plaît. Moi, je suis le fils d'un chauffeur, le calife. Mon père, à Bukavu, allait à Kindu, à Miskou, en voiture. Les gens de Kindu, Shabunda, Kabitou, venaient en camion à Bukavu. Et il y avait tout à manger. Ce qui venait de la province, des routes en terre battue.
D'où l'importance
de la province et qui permet aux producteurs des vivres de produire davantage pour vendre. On ne mangerait pas les Thompson et les coupés de dés et tout ça parce que nous avons du poisson qui pourrit, du poisson qui meurt de vieille, ici à Koutou. Bref, on nous a fait un travail pour nous embrouiller, pour nous éblouir, pour rien. Et je suis désolé aujourd'hui, j'aurais bien voulu voir le président de la République inaugurer la réhabilitation du chemin de fer Katanga, Kasai, Panya. Ça, c'est une bonne chose. Et
et mon combi, ça coûte 500 millions de dollars. Je suis prêt à payer même pendant 30 ans. Parce que je connais cette importance. Deuxième élément, je veux bien vouloir le président de la République donner des moyens conséquents à l'office de route. Pour dire, avec des pelles, avec les systèmes de cantonniers, qu'on arrange les routes, les équipes vont passer. Nous aurons les pommes de terre de Massissi ici. Nous aurons les haricots de Litouri ici. Mais on nous embrouille, on nous vient nous embrouiller avec les boulevards. Qu'est-ce qu'un boulevard ici? Qu'est-ce qu'un paysan de Litouri? Qu'est-ce qu'il doit lui apporter?
Merci, merci. C'est la fin de ce débat. Guy Mangangou était à la technique, et Kevin Poussé à la réalisation assistée de Samuel Kachak. Sur la supervision de Ben Kabamba, de votre micro, Guy Massé. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capi. Thank you.